Je regardais en essayant de m'endormir une vieille lampe de chevet dont le pied, une boule en bois verni, laissait paraître sur son équateur soit qu'il ait été ici plus spécialement poli, soit que le bois en ait été plus tendre, une vague forme spectrale un peu plus claire qui m'évoquait la traînée lumineuse de la Voie lactée. Je regardais ce paysage, ce fragment du seul objet du ciel que nous ne verrons jamais, et ma chambre en soupente s'y perdait complètement. L'encoche triangulaire du chien assis y formait une constellation stable, le jaune du Draous, une planète sableuse, et je pensais au plaisir qu'il devait y avoir à travailler le bois pour fabriquer de tels astres miniatures, quand j'ai repensé à la façon dont l'un des personnages de la Cité des Permutants, un roman de science-fiction de Greg Egan, occupait la première moitié de sa vie éternelle en fabriquant des milliers, des millions de pieds de table en bois tourné. Il faut n'avoir jamais passé un après-midi pluvieux dans une maison ancienne pour ne pas comprendre que c'est là une solution tout à fait valable au problème de l'éternité. Et j'allais m'endormir, certain de ne plus jamais m'ennuyer dans cette vie ou dans l'autre, quand je me suis souvenu de l'émission sur la fusion nucléaire que j'avais entendue quelques heures plus tôt. L'invité de Nicolas Martin s'extasiait de ce qu'il ait fallu 2 millions d'heures pour assembler le Stellarator allemand. Ça m'a fait basculer directement dans l'un de mes rêves érotiques préférés, ceux qui montrent de solides ouvriers allemands moustachus assemblés à la main, cylindre après cylindre, de puissants moteurs de Porsche. Un fantasme qui vient exactement contrebalancer l'autre image que l'industrie automobile allemande aime donner d'elle, celle de ces usines BMW tout automatisées où des robots autonomes flottent sur le béton ciré blanc. J'aime l'idée qu'un jour le moustachu débarque ici et décide de reprendre les choses en main en évaluant le temps qu'il lui faudrait pour égaler ses machines. Pas plus de 24 000 heures sans doute, un peu moins de 3 ans. Il laisserait probablement tout en l'état, mais retirerait de l'expérience une satisfaction mystérieuse. Il aurait pu le faire, il pourrait le faire à sa retraite. Les 228 années du Stellarator lui seront plus mélancoliques, à moins qu'il y voie l'occasion joyeusement germanique de fonder une guilde. Dans la ville d'Allemagne, où les conséquences indirectes de la réunification m'avaient conduit à passer l'été de mes 15 ans, j'avais ainsi vu passer un soir une immense guirlande portée par toute la jeunesse de l'endroit. Elle était faite à y regarder de plus près de plusieurs milliers de mignonnettes d'alcool reliées entre elles par du fil de fer, des mignonnettes de Jägermeister, d'Armagnac et de Schnaps, comme on en distribue dans les avions. Et j'avais été naïvement impressionné, ignorant sans doute qu'il existait des techniques plus simples pour se procurer ces précieux flacons, du nombre d'heures de vol accumulées ici et relâché de façon carnavalesque dans le vieux centre médiéval. L'objet, ondulant comme un dragon chinois, multicolore et fragile, était magnifique, au moins autant que le Stellarator à bobine hélicoïdale et à aimant poloïdo. Il s'agissait, je crois, d'un anniversaire. Quelqu'un fêtait ses 18 ans dans la petite ville de Basse-Saxe, et la foule avait bien quelque chose de l'insaisissable plasma qu'on tente de confiner là-bas, plus à l'est, en Poméranie, pour créer une réaction de fusion nucléaire. La fusion nucléaire comme dernier dieu des modernes, porte étroite avant l'apocalypse climatique, les ruines inachevées de Cadarache prenant l'aspect tragique d'un temple aztèque au sommet duquel un peuple barbare, le nôtre, aurait sacrifié sa jeunesse pour alimenter le feu sacré du soleil. L'invité de la méthode scientifique avait justement fait état de ce mythe un peu démoniaque de la fusion nucléaire quand le tokamak anglais, pendant la nuit d'Halloween en 1997, avait généré pendant quelques secondes presque autant d'énergie qu'on ne lui en injectait. Cela s'est passé sur les terres de Tolkien dans l'Oxfordshire et on était pas loin de l'anneau de Sauron. Les millions d'heures que je contemplais dans l'énigmatique pied de ma lampe de chevet vacillait magnétique entre l'état dangereux d'apocalypse, la perte soudaine du confinement bourgeois de nos vies et la possibilité incertaine et un peu hérétique, tant du point de vue de la théologie que de la thermodynamique, d'une heureuse apocatastase, le paradis pour toutes les choses, des cylindres de la Porsche aux robots de BMW, de l'ouvrier moustachu et exact de YouTube, aux adolescents insouciants et alcoolisés de ma jeunesse.